Yeah. Chers amis de PFC, êtes-vous prêts au changement? Bonsoir. Nous sommes ici à Romainville. Bienvenue dans cette réunion du dimanche 8 mars 2015 environ. Voilà, on va se présenter, puis parler un peu de l'actualité, ou poser toutes les questions, clarifier quoi que ce soit qui a besoin d'être clarifié. Donc, un petit tour de prénom.
Bonsoir, c'est Ludmille.
Bonsoir, c'est Christine. Je suis très contente d'être là pour pouvoir discuter de ces événements d'importance planétaire.
Bonjour Carolina, je salue ma maman qui doit écouter.
Bonsoir, c'est Pierre, je salue ma mère qui ne doit pas écouter, mais qui fête son anniversaire demain. Bon anniversaire maman.
Bonsoir tout le monde, c'est Nicolas.
Bonsoir, c'est Avi, un coucou chaleureux à Lina, ainsi qu'à toutes les personnes connectées de près ou de loin à PFC dans le monde, et dont le nombre grandit de plus en plus chaque jour. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre pour la première fois, bienvenue. Voilà, même si nous sommes relativement peu nombreux dans cette pièce, le fait que ça soit enregistré fait grandir virtuellement la taille du groupe par un facteur énorme, puisque à terme, il y a environ 400 personnes qui sont totalisées, ayant accédé à la page de l'enregistrement audio sur le site Être Plus, là, une base de référence pour non seulement l'audio, mais aussi des articles pour se former sur Préparez-vous au changement. Alors moi, j'ai quelques points du jour, peut-être vous en avez aussi, mais les miens, c'est parler de la date du 17 mars comme étant un jour de reset, de réinitialisation suggéré par Cobra, donc on pourra entrer dans le détail. Le deuxième, c'est l'importance croissante du site coeo.cc qui pourra nous servir de point de rassemblement pour voir l'expansion des groupes sur Terre, non seulement des groupes PFC, mais aussi beaucoup de groupes spirituels qui ont d'autres secteurs de développement. Et puis, le troisième point pour moi, c'est les deux vidéos que j'ai diffusées récemment qui m'ont fait un effet bœuf, même si j'en mange plus. Pas des vidéos, hein, mais du bœuf. Les vidéos diffusées par une école de yoga en Roumanie, mais qui sont d'une portée immense, d'une précision énorme. On pourra peut-être entrer un peu plus dans le détail, parce que ça révèle pour moi des choses complètement inédites pour moi à ce jour. Et puis, je pourrais vous donner aussi le journal des bonnes nouvelles, hein, le journal de ce qui s'est passé d'intéressant cette semaine. Par exemple, les émissions novatrices sur Arte. Il y a eu plusieurs émissions vraiment waouh. Ça s'accélère aussi sur Arte. On pourrait ouvrir un chapitre Arte toutes les semaines, pratiquement, tellement il y a de choses qui se passent. Voilà, et puis comment va le monde, comment change le monde en ce moment et comment chacun de nous change, hein. Ça peut être aussi l'occasion de parler des changements, parce que quand je parle d'un changement, quand je vis un changement tout seul, mais que je ne le partage pas, bah, ça n'a pas autant d'effet que quand j'entends « Ah ben oui, lui aussi, elle aussi », on peut commencer à globaliser un petit peu plus. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole à tout moment, simplement, je vous passe le micro. C'est un bâton de parole. On essaie de ne pas parler si on n'a pas le micro, sinon c'est presque inaudible. Mais on peut le demander à tout moment, ou simplement, si quelqu'un a d'autres points sur lesquels il veut intervenir, c'est possible de les dire maintenant. Ou d'autres questions à poser. Je lève mon verre à Gaïa. Il y a écrit Gaïa sur mon verre. Voilà, et puis la cannelle de cette boisson qu'on boit là, le Yogi Tea, c'est un puissant antiseptique. Et l'antiseptique, déjà, ça nettoie les sceptiques. Et en plus, ça purifie. Ça purifie toutes les microbes, toutes les choses sombres qui ne nous veulent pas du bien. Donc voilà, on peut purifier les ombres qui traînent ici. Et puis comme c'est dans le gobelet Gaïa, bah, Gaïa est bien nettoyée avec... Alors on est en plein délire PFC, là, je vous signale. J'ai une huile essentielle tout près, là, qui a un puissant... bactéricide, fongicide, tout. Alors là, il y a de quoi nettoyer toute la cabale avec un petit flacon de 5 millilitres en spray.
C'est un spray ?
Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Non, on peut le mettre dans un spray. S'il y a un banquier véreux, là, tu lui mets un petit coup d'origan compact dans les yeux, il verra plus. Attention.
Je connais.
Ah bon, d'accord. Faut pas le prendre à trop haute dose. Voilà, donc après cet humour PFC décalé, préparez-vous au changement, même dans l'humour. Si personne a quelque chose à proposer, ben je vais parler déjà de coeo.cc. Alors co comme collaborer, eo comme eo, voilà, eo on collabore, coeo, si vous n'arrivez pas à vous rappeler du mot, .cc, hein, c'est bon, voilà. Alors c'est un successeur de Meetup qui avant nous servait à déclarer les groupes et les réunions. Mais moi, je dirais en mieux, en beaucoup mieux. D'abord, il est super agréable à utiliser. Ensuite, il référence des personnes et des organisations sur la base de 12 critères assez branchés Nouvelle Terre. Spiritualité, art, science, santé... j'en passe. Donc, quand tu t'inscris individuellement, tu déplaces des petits curseurs qui disent spiritualité, moi je me sens à fond la caisse dedans. Donc je mets 90%. Hein. Tu fais glisser des petites choses. Dans les arts, je suis à 30% sensible. Dans la santé, ben, je suis thérapeute, donc je monte à 100%. Et donc, ça te définit un profil qui est tout sauf un profil Facebook. Parce que c'est mes compétences et mes besoins. Et donc, tu as deux ensembles de 12 valeurs que tu fais glisser. Hein. Par exemple, je suis très compétent dans la spiritualité, parce que je fais ça depuis des années. Et j'ai besoin de développer la partie artistique. Donc, j'ai un curseur pour les compétences et un curseur pour les besoins. Et ce que fait ce site, ce qui est l'idée vraiment géniale, c'est de mettre en corrélation les compétences des uns avec les besoins des autres. Que ce soit les individus avec les organisations, ou les individus entre eux, ou les organisations entre elles. Alors, je vais faire des recherches en disant, je recherche quelles organisations sont dans la spiritualité, dans l'art et dans la santé, et surtout dans un rayon d'action de 50 km, 100 km, 1000 km, 13 000 km. Et je vais avoir un ensemble de résultats qui vont répondre à ses besoins et à ses compétences. Ou alors, je suis très compétent dans ces domaines-là. Quelles sont toutes les organisations qui cherchent ces compétences dans le monde? Donc, c'est absolument génial parce que c'est très orienté nouvelle terre. Ce que n'est pas Facebook, ce que n'était pas réellement Meetup, c'était un petit peu plus spectre d'action, un petit peu plus large. Donc, Coeo, c'est fait par un jeune développeur anglais qui a peut-être 25 ans, qui fait ça à temps partiel parce qu'il a un boulot, à part ça, mais qui le fait dans un but de créer des liens et de créer un monde de justice, de liberté, avec des valeurs très proches de PFC. Donc, moi, je vous encourage à vous inscrire, ne serait-ce que pour manifester votre présence dans un site qui a des valeurs profondément humaines, humanitaires. Donc Matt, il a besoin d'un petit peu de soutien financier parce qu'il n'a pas assez de temps puisqu'il doit bosser pour l'alimentaire à part Coeo. Il n'a pas assez de temps, mais il a plein d'idées pour développer ce site. Et ce site, il vient d'être lancé. Et l'Angleterre est pratiquement parsemée de points bleus qui disent « je suis là, je suis là, je suis là ». Adhérent à Coeo, il y a plus de 3000 inscriptions jusqu'à maintenant. Et mon souhait à moi pour que PFC se développe, c'est de voir la France aussi autant parsemée de points bleus que l'Angleterre ne l'est aujourd'hui. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et en même temps, vous vous définissez comme un profil de 12 valeurs humaines, qui est le vôtre, qui est votre carte d'identité, et 12 aussi besoins. Besoins et compétences. Je trouve que c'est très intelligemment, très finement défini ce site. En plus, il est super agréable à utiliser. Vous pouvez être en tant qu'anonyme, vous pouvez vous appeler la sphère rouge ou la patate bleue. On peut tout à fait, ou alors dire simplement avis. F. Pour donner juste le prénom. Voilà. J'aurais l'ambition de transférer toutes les réunions, toutes les inscriptions aux réunions sur Coeo. Donc, pour laisser de côté Doodle, qui nous a bien rendu service, mais qui est extrêmement local, qui ne peut pas être vu, par exemple, par un groupe anglais ou américain, il n'a aucune idée de si on participe à tel événement, alors que Coeo, tout le monde voit tout. Hein, pour peu qu'on dise, je veux voir à 200 km de chez moi, à 500, ou le monde entier. Hein. Et, on peut avoir, et la page d'accueil, c'est toute la planisphère du monde, avec toutes les personnes ou organisations inscrites dans... Et donc, on va pouvoir découvrir, à part PFC, énormément d'organisations qui ont pour but des valeurs humaines très proches de PFC, spiritualité, justice, santé, art, etc., etc. Il y a 12 valeurs et c'est pas rien, hein, parce qu'il y a aussi dans PFC, défini dans un document qui est... je ne me rappelle plus le nom de ce document, mais peut-être vu d'ensemble. à la fin de ce document et aussi à la fin de tous les documents que j'envoie sur la liste de diffusion PFC, il y a les 12 valeurs fondamentales de PFC. Foi, équanimité, authenticité, etc. Donc des valeurs humaines qui définissent pourquoi PFC est important, en quoi PFC est important, qu'est-ce que PFC affirme comme valeur qui nous unit les uns aux autres. Voilà, et toutes ces valeurs-là, on essaie de les développer parce que c'est ça qui est le lien hein, entre nous. C'est pas la prise de contrôle, c'est pas le pouvoir, c'est des valeurs humaines. Donc, dans ce petit groupe-là, d'aujourd'hui, de 6 personnes, on s'entraîne à fonctionner comme après l'événement, sur une base d'égalité. Hein, on est un petit peu comme les Anonymous, on est un petit peu comme la démocratie directe, on est un petit peu comme les mouvements des indignés, on essaie de fonctionner sans chef. Moi, je suis compétent en organisation, donc j'organise, je diffuse, je publie. Mais je vous invite à mettre vos compétences dans ce groupe aussi bien que moi. Hein. Ça ne me donne pas une importance plus grande. En tout cas, je ne souhaite pas avoir une étiquette, ni être en haut d'une pyramide quelconque. On fonctionne à l'horizontale. Ça veut dire que chacun selon ses besoins, et chacun selon ses moyens. C'est la devise du kibboutz. Moi, j'ai vécu 7 ans dans un kibboutz en Israël où celui qui ramasse les poubelles et celui qui est le secrétaire général qui dirige, qui représente le kibboutz par rapport à l'extérieur ont exactement le même rôle. N'ont pas plus d'argent, n'ont pas plus de valeur. Tout le monde est à rôle égal. Idéalement, la nouvelle terre fonctionnerait comme ça. Ça veut dire, moi je suis compétent dans les arts, je vais proposer à la société ma compétence. Et puis, dans l'organisation, je vais plutôt bénéficier de la compétence de quelqu'un d'autre qui aura plus d'aisance dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et on essaie que ça ne soit pas un monologue, hein, parce que moi j'ai beaucoup de choses à transmettre, mais je ne souhaite pas être le seul à parler non plus. Donc dès que quelque chose vous vient, levez la main et volontiers je vous passerai le micro. Donc je vois dans Coeo un symbole de l'accélération de PFC que je sens en ce moment. Pierre est là aujourd'hui, la semaine dernière il y en avait d'autres. Sur Facebook, la page PFC France de Facebook, il y a beaucoup d'accélération, de nouveaux inscrits. Peut-être aussi est-ce dû au fait que nous sommes dans une fenêtre d'opportunité qui se termine le 17 mars prochain, donc dans 9 jours. Hein, c'est un mardi. Peut-être suite au dernier message de Cobra qui disait que maintenant il n'y aura plus de fenêtres d'opportunité parce que les équipes des travailleurs de lumière et des travailleurs du mouvement à la résistance ont tellement avancé que c'est plus utile, que maintenant on est dans une grande fenêtre d'opportunité permanente. Waouh, c'est pas rien une nouvelle comme ça. Et donc c'est Cobra lui-même qui parle du site Coeo et c'est comme ça que je l'ai connu. Hein. Dans l'avant-dernier post de Cobra, il nous disait d'aller voir. Coeo permet aussi de parler directement, un peu comme Facebook, à un autre membre de Coeo, quelle que soit sa place sur Terre, quel que soit son pays d'inscription, parler à une autre organisation, poser des questions. Il y a beaucoup d'interactivité et il y a beaucoup Je cherche le mot. Il y a beaucoup de fonctionnalités du site qui vont être développées. Entre autres, la traduction en français sera implémentée. Et Matt, le développeur, a trouvé une idée assez géniale. Il a dit, si vous voulez donner des sous, moi j'ai donné 5 euros, parce que le type était vraiment très très sympa. Pas grand-chose, 5 euros, mais bon, si 1000 personnes donnent 5 euros, c'est déjà énorme, hein, ça fait 5000 euros. Il a dit, si vous voulez voir développer la traduction du site, donnez 5 euros à cet endroit-là pour la traduction. Et il y a un bouton spécial, je veux investir dans la traduction du site. Je veux investir dans tel autre domaine, la convivialité. Bon, il a séparé les donations en plein de petites rubriques. Et puis, on peut donner aussi de manière générale. Donc, tous ceux qui veulent que le site soit traduit en français, donnez même 1 euro et affectez ce 1 euro à la traduction. Et comme ça, quand il va se mettre au boulot, il va commencer par la traduction. S'il a plus d'argent dans la traduction que dans les autres... Waouh, c'est quand même assez génial. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, Matt? Il dit, ce site va se développer en fonction de vos désirs. Ça, c'est de la démocratie directe. Bon, il y a un petit peu de pognon, mais en vérité, on est tous des investisseurs. Un euro, c'est rien. Moi, j'ai donné 5 euros, mais un euro, c'est rien. Si on achète un truc, 52 euros ou 53 euros, on voit pas trop la différence. Donc, si vous la voyez pas, vous la donnez à Matt. Hein? C'est une blague, hein, mais... Ça permet de ne pas être simplement des gens passifs qui bénéficient d'un site et puis attendent tout d'un site, mais plutôt des gens actifs qui dirigent le site vers là où c'est le plus désiré. Alors ça, c'est de l'interaction et ça, c'est de la participation. On est comme tous des co-auteurs du site. Qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a la compétence de développeur, comme moi, j'ai la compétence d'organisateur. Il la met au service de qui? De la communauté, de la grande communauté d'humains. Alors, pour moi, on est déjà dans un fonctionnement de nouvelle terre, hein, quand on fait ça.
Merci. C'est comme ça, micro?
Non,
c'est comme ça, d'accord. Oui, alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la France. C'est le pays dans lequel je suis né. Et j'ai, lors de mes découvertes et de mes lectures, beaucoup entendu dire que la France avait un rôle très particulier par rapport à l'Europe et surtout au monde. Et depuis quelques temps, j'ai constaté ce que moi j'appelle quand même un réveil de la France. Je l'ai observé à plusieurs reprises, j'ai eu plusieurs signes. Alors un des premiers signes, ça a été la découverte d'un jeune homme qui s'appelle Cédric Anissette, et qui parle de l'indépendance financière. Et alors, depuis qu'il a ouvert son site, c'est très impressionnant. En fait, il a deux sites, un site sur la santé et un site sur l'indépendance financière. Et il dit beaucoup de choses assez profondes sur notre rapport à l'argent. Je trouve que là, on voit qu'il y a un mouvement énorme autour de lui qui est en train de se former, pour que les gens accèdent à leur indépendance financière ou économique. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je l'ai rencontré d'ailleurs personnellement. Et voilà, je suis très content d'avoir pu le voir et parler avec lui. La deuxième personne qui m'a beaucoup interpellé récemment, il s'agit de Laura Marie, qui est donc se dit mentor, écrivain, etc. Alors, elle est un peu dans la même veine que Cédric, mais je dirais avec, pour moi, une valeur ajoutée, c'est-à-dire que bon, il y a en plus la dimension spirituelle que je n'avais pas trouvée chez lui. Et alors là, j'ai été impressionné de la manière dont elle parle du lien entre le monde physique et le monde spirituel, qu'il est temps d'assumer de qui on est dans tous les plans. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment énorme et ça m'a complètement ébloui. Donc ça pour moi c'est quand même un signe très très fort du réveil de la France, parce que ce sont des Français, un homme et une femme. Voilà, je voulais parler de ça et ça fait déjà beaucoup. Quelqu'un veut prendre la parole? Bon, alors je vais continuer. Il y a un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est celui des épandages aériens clandestins. Alors, c'est un peu complexe parce que quand on commence à les voir, ça peut, enfin en tout cas pour moi, ça peut devenir un peu lourd pour la conscience. Hein. Surtout quand, en fait, j'ai vu un film, je sais plus comment il s'appelle, c'est quelqu'un qui porte des lunettes et qui voit, comment dire, les êtres tels qu'ils sont par les lunettes, vous savez, avec les messages subliminaux. Bon, j'ai oublié le nom du film.
Los Angeles.
Los Angeles, quelque chose, voilà. Et alors, j'ai fait une expérience cette semaine invraisemblable. Alors, par rapport au changement, on parlait de changement. Mais cette semaine, pour la première fois, j'ai osé aller voir les gens pour leur demander ce qu'ils voyaient dans le ciel. Des gens que je ne connaissais pas. Parce que quand je suis sorti de là où je travaillais, que j'ai levé la tête, j'ai été mais estomaqué de la laideur du ciel, alors qu'il était vraiment d'un bleu parfait à 8-9 heures. À 11 heures, c'était un désastre. Il était vraiment hachuré dans tous les sens. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas vrai que les gens ne le voient pas. Et donc là, j'avais vraiment l'allant, le naturel, pour demander aux gens ce qu'ils voyaient. Alors évidemment, ça a été un peu compliqué, mais ça m'a permis de comprendre ce que voyaient les gens, et ce qui, là où ils en étaient, ce qu'ils ressentaient. Et je me suis retrouvé comme le personnage dans le film avec ses lunettes. C'est-à-dire que j'avais les lunettes, mais eux ne les avaient pas. Et il y a une dame qui m'a dit, c'est pas le ciel qui est bizarre, c'est vous qui êtes bizarre. Un autre qui m'a dit... qui m'a dit que c'était la fin du monde, qui était très méchant d'ailleurs, vraiment, il avait un très mauvais fond, c'était waouh, c'était ardent. Et une dame qui m'a dit, franchement, c'est vrai, c'est bizarre. Je trouve pas très beau le ciel. Et ce qui était très intéressant, c'est que, qu'est-ce que faisaient les gens quand je leur demandais, est-ce que vous avez vu le ciel aujourd'hui? Eh bien, ils ne regardaient pas le ciel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me regardait, moi. Et bon, ça soulève beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je voudrais dire, pour moi, qui est extrêmement importante. C'est que la sensibilité à la beauté, ça fait beaucoup dans la perception du monde et dans le changement qu'on veut y apporter. Parce que pour moi, le simple fait de voir le ciel dans un état pareil, ça me met hors de moi. C'est-à-dire, pour moi, c'est inadmissible. Quand bien même il ne me polluerait pas, quand bien même il n'y aurait pas de manipulation. C'est ça que je veux dire. C'est que d'un point de vue sensible, d'un point de vue artistique, déjà, je dis non. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et à force de s'habituer à la laideur, j'ai envie de dire, eh bien, on s'habitue aussi à la manipulation. Dans un sens. Et ça me rappelle un livre de François Terrasson qui s'appelle « La peur de la nature » et qui parle de ce sujet, j'adore ce qu'il dit. Il dit que le problème fondamental de l'écologie, c'est que les êtres humains, même s'ils font le tri sélectif, au fond d'eux, ils ont peur de la nature. Et c'est à cause de ça qu'ils font du mal autour d'eux. Et là, je me suis dit « Waouh, là, il a mis le doigt sur un truc ». Vraiment. C'est que c'est la peur de la nature qui fait que finalement, on en vient à des comportements inadaptés. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, la réaction des gens quand ils voient des moustiques ou quand ils voient des insectes. Enfin, je veux dire, mais qui entre l'insecte et l'être humain et pose problème? Enfin, je veux dire, faut voir les choses comme elles sont, quoi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Et bon, moi, je suis prof de français et quand je vois la réaction des élèves quand ils voient une mouche, mais si vous saviez ce que c'est dans une classe quand une mouche rentre, mais je veux dire, c'est un sketch qui dure mais un quart d'heure, quoi. Parce qu'il y a une mouche qui est rentrée dans la salle. Mis à part le fait que... Non, ils ont un problème avec la mouche. Ah mais oui! Pour une mouche, ils sont tous en train de se regarder, ils évitent la mouche.
À mon époque, c'était pas comme ça. Hein.
Malheureusement, oui. Mais maintenant, en tout cas dans mes cours à moi, hein, je sais pas, je parle de ce que je connais, c'est comme ça. Et là, j'ai envie de dire, ça suffit quand même. C'est bon. Voilà.
Ils ont quel âge ?
Entre 10 et 15.
Parce que il me semble qu'à 2-3 ans, c'est normal. Je sais que mon neveu, un moucheron même de 1 mm, il avait une peur panique. Même un seul millimètre, hein, c'était suffisant. Je crois que c'était juste qu'il ne connaissait pas. Donc, c'est comme si c'est l'inconnu, il a peur. Mais ça, je crois que c'est normal, peut-être. Mais là, ce que tu me dis, dans les classes, les enfants qui sont entre 10 et 15 ans, les adolescents qui sont terrorisés par les mouches, ça m'étonne.
Alors,
c'est un peu étonnant.
Je vais me préciser, c'est pas tout à fait terrorisé, c'est plus un écœurement, un dégoût. C'est vraiment un mépris, mais oh, affiché, mais c'est... Au secours. Les mouches, s'il vous plaît, ne rentrez plus dans mes classes. Ah, pas du tout. Voilà. Merci. Et merci Cobra, j'adore tes vidéos. Alors là, vraiment. Et merci Ashtar. Parce que c'est par Ashtar que je suis arrivé jusqu'à Cobra et que je suis arrivé jusqu'ici. Voilà, voilà.
À propos de ce que tu dis, et comme tu parles de Cobra, Cobra, d'après lui, les épandages chimiques, il n'y en a pas tant que ça et ils ne sont pas si dangereux que ça. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Il a dit, répété plusieurs fois, que c'est secondaire par rapport à d'autres choses. Hein. Mm-hmm. De son point de vue. Hein,
ce qui n'est pas rassurant. Ce qui n'est pas secondaire par rapport à d'autres choses, c'est pas rassurant.
Tu disais, le nom, c'était Cédric Annette, c'est ça ?
Anicette.
Cédric Anicette et Laura Marie, d'accord. Okay, merci.
Bon, alors, quand on parle de Cobra, bah, je vais continuer à parler de Cobra. Donc, le point important dans le dernier post, c'est le jour du reset. C'est marrant parce que Cobra a des titres un peu fracassants en ce moment. Le dernier, c'était nous sommes dans la phase de percée. Fin de la quarantaine, hein, phase de percée, fin de la quarantaine, c'est, pour certains, ça a été perçu comme ça y est, c'est l'événement. Il y a eu, je ne sais pas, 200 ou 300 commentaires, ça a déferlé comme des vagues, et quelques-uns disaient ah oui, c'est vrai, alors l'événement c'est maintenant. Mais en fait, c'était pas ça. Et puis là, pareil, le titre, c'est. 17 mars 2015, jour du reset. Donc Cobra donne une date, ce qu'il n'a jamais fait avant. Hein. Mais en vérité, quand on lit l'article, c'est un reset intérieur. C'est un reset, le pardon des dettes, mais le pardon de la dette morale, de la dette émotionnelle hein, que je peux avoir avec toi, avec des gens, un pays. Voilà, c'est le Ho'oponopono. Pour aller vers le futur, on va laisser le passé, arrêter de donner autant de poids au passé, et on va laisser le passé dans le passé, et arrêter de perpétuer des choses qui sont terminées, et de remettre l'énergie d'hier dans aujourd'hui. Ce qui fait que c'est comme si j'entretenais une dette perpétuelle avec tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux que j'ai perçus comme étant maléfiques pour moi. Ça peut inclure la cabale, hein, ce qu'on appelle la cabale parmi nous. Donc, jour du reset intérieur, le 17 mars, un mardi, Cobra suggère de le faire chacun dans l'intimité de son cœur et dans le silence. Je me pose la question, elle n'est pas encore ouverte, elle n'est pas encore tranchée, de est-ce que on peut se donner rendez-vous ici dans le silence avec une bougie ou un truc comme ça, sans parole, sans rien, juste... à une certaine heure ce jour-là pour fédérer, pour faire une synergie avec nos, nos silences, avec notre énergie. À voir, à suivre, peut-être que oui. Peut-être je diffuserai aussi à mon réseau groupe de conscience qui comprend plus de 1000 personnes cette information qui est on prie pour la paix dans le monde, voulez-vous prier avec nous, hein, quelque chose de ce genre-là. Ce qui est en fait un peu notre intention, hein, même si c'est PFC qui est dans les coulisses. PFC, c'est le nom qu'on donne à un mouvement qui veut un rééquilibrage de la planète, des énergies plus douces, moins de manipulation, plus de manipulation. Ça s'appelle PFC, mais la vraie nature, c'est le changement. La vraie nature, c'est un nouveau paradigme. C'est en fait bien plus large que Cobra et compagnie. Hein. Cobra, Rob Potter et la clique et tout le reste. Donc, 17 mars, réinitialisation. D'après Cobra, c'est le signal. Si nous sommes ce jour-là dans un pardon intérieur, dans un effacement des dettes émotionnelles, morales, avec les autres, c'est le signal que nos frères de l'espace attendent pour précipiter le premier contact, pour œuvrer avec plus d'efficacité. Parce que pour moi, la chose la plus importante, vraiment, dans tout le mouvement PFC, vraiment la chose capitale de laquelle on ne peut pas se passer, d'après moi, c'est le niveau de conscience, c'est le niveau vibratoire. Et pour moi, c'est le but unique de PFC, pouvoir augmenter le niveau vibratoire des humains sur Terre, parce que pour moi, tout le reste n'est que conséquence. Quand le niveau de peur baissera et quand le niveau d'amour va augmenter, forcément les dirigeants qu'on va élire vont refléter ça. Et forcément la société changera. S'il y a 5% de personnes en conscience, une personne comme Hitler peut être élue, mais s'il y a 90% de personnes en conscience, c'est plus possible, parce que les valeurs ne correspondent plus. Hein. Donc le niveau de conscience, on peut dire le niveau d'amour, mais conscience c'est un terme encore plus global. Pour moi c'est celui le plus important. Je sens qu'il y a une accélération hein, de l'augmentation de ce niveau de conscience par les vidéos que je reçois, les témoignages, les sites, la communication entre nous et mille autres choses. Les gens qui arrivent comme Pierre aujourd'hui, ici dans notre groupe, les nouvelles inscriptions sur PFC, sur Facebook, 30 inscriptions en un jour. Voilà. Alors, je sens que le but de Cobra, du mouvement de la résistance, de PFC, de l'événement, c'est seulement élever le niveau de conscience sur Terre pour que il y ait une transition douce vers un autre paradigme, mais pas une transition chaotique, comme ça peut l'être si le niveau de conscience n'est pas. Alors, personnellement, moi je sens que le niveau de conscience sur Terre, et même si dans les travailleurs de lumière ça bouge à toute vitesse, je sens que le niveau de conscience sur Terre est relativement bas. Hein. Si on prend l'ensemble des humains, hein, et je dirais que pour moi, il n'y a pas plus de 5% de personnes qui ont vraiment un niveau de conscience qui dirait l'événement maintenant, hein, qui dirait il n'y aurait pas de heure chez moi intérieurement si l'événement arrivait maintenant. C'est mon ressenti, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas plus que 5% et peut-être même moins de personnes qui sont prêtes à un grand changement radical. Parce que ce serait un changement politique, ce serait un changement religieux, ce serait un changement spirituel, ce serait un changement énergétique, ce serait un changement... Il n'y a pas un seul domaine qui ne serait pas impacté. Et ça m'amène à penser que l'événement n'arrivera pas avec un si faible niveau de conscience, n'arrivera pas aussi vite que nous pouvons le penser, que nous pouvons le souhaiter. Moi, j'ai réfléchi 15 secondes et je me suis dit que sur Terre, il y avait trois grandes catégories. Il y avait ceux qui, pour qui on est des allumés complets, des illuminés qui rêvent, c'est de la foutaise totale tout ce dont on parle. Hein, par exemple, ceux qui disent que le problème, c'est pas le ciel, c'est toi. Ceux pour qui, quand on parle des extraterrestres, commencent à se mettre en colère, ou ceux qui trollent tous les sites internet qui parlent d'énergie libre, etc. Ça, c'est une partie. La deuxième partie comprend les travailleurs de lumière. Et dedans, moi, je vois les travailleurs de lumière pressés que les changements arrivent, c'est-à-dire pas tranquilles l'évolution de l'humanité, mais plutôt tendus avec ça. C'est-à-dire, oui, on sait que tout ce qui se passe, c'est dramatique, on sait. Et Cobra, je t'en prie, appuie sur le bouton, mais tu vois pas qu'on souffre, on souffre. Cobra, de grâce, arrête les souffrances sur Terre, appuie sur le bouton. Et en fait, voilà, je dirais, ce point de vue-là de travers de lumière pressée n'a pas idée de la globalité de la situation. A une idée peut-être de ce qui se passe au niveau de la Terre, mais peut-être pas à l'échelle du système solaire, à l'échelle de la galaxie, à l'échelle de l'univers. Et la troisième catégorie, pour moi, c'est les travailleurs de lumière qui ont tout leur temps et qui sont prêts à attendre autant de temps qu'il faut pour que cette transition ne soit pas brutale. Et c'est l'objectif de PFC, ça a été déclaré à maintes reprises, une transition douce. Dans cette troisième catégorie, je dirais que c'est celle qui est émotionnellement la plus stable, hein, je pourrais dire, à l'intérieur de cette troisième catégorie, je dirais que peu importe si l'événement arrive seulement dans 10 ans, pour eux. Parce que si c'est le meilleur possible pour l'humanité, alors je veux bien me préparer davantage. C'est peut-être important de savoir dans quel état d'esprit nous attendons ou nous n'attendons pas, mais nous nous préparons à ce que l'événement un jour arrive. Et nous ne savons pas quel jour. J'ai cette intuition, peut-être pas une conviction, mais que l'événement n'est pas pour demain. Et d'après les vidéos que j'ai reçues, qui ont quand même résonné en moi, celles qui parlent en roumain, pour moi, l'événement sera plutôt dans 10 ans que le 17 mars. Mais bon, peut-être que certains ne seront pas tout à fait satisfaits de cette intuition. Cependant, moi, je me sens déterminé à continuer à œuvrer pour que le niveau des consciences monte et à faire ce qu'il y a besoin de faire pour que ça fasse une traînée de poudre sur Terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas réellement motivé commence à entrer dans le cercle des personnes qui voient ce qui se passe derrière les coulisses, qui commencent à agir, et puis ensuite qui se disent « Ah ben oui, moi j'ai ça et ça comme émotion qui me plombe et qui m'empêche d'être vraiment tranquille pour avancer davantage, donc je vais pardonner tout ça, et puis entrer dans une catégorie beaucoup plus tranquille, qui est la fondation pour moi, pour la Terre de demain. Hein, parce que toutes ces émotions qui sont... les attentes, tout ça, l'instabilité, voilà, c'est de l'ego qui se manifeste pour être nettoyé. Hein. C'est des choses qui se disent, bah, quand est-ce que tu t'occupes de moi pour avoir une vie plus tranquille, hein, pour être moins dépendant du chaos ou des épandages dans le ciel, ou est-ce que Cobra va ou non appuyer sur le bouton. C'est mon ressenti. Donc, dans, dans ce registre-là, le fait que Cobra, d'une certaine manière, fasse des annonces un petit peu fracassantes, puis la semaine d'après, d'autres annonces fracassantes, voilà, tout ça, ça s'inscrit dans rester motivé, hein, rester motivé, mais en même temps, c'est moi j'entends c'est pas pour demain. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'entends c'est pas pour demain. Restez motivé, occupez-vous de vous, faites ce qu'il faut, donnez le signal aux frères de l'espace. S'il faut donner le signal aux frères de l'espace, c'est que le signal n'est pas donné pour l'instant. Et il n'est pas tangible, il n'est pas manifeste. L'humanité n'est pas une avec ce signal, hein, elle est plutôt divisée avec ce signal. Voilà, ça c'est mon ressenti. Et dans les vidéos roumaines, là, qui sont de mon point de vue assez exceptionnelles, c'est de la divulgation douce, hein, moi j'ai titré ça comme ça dans le dernier bulletin PFC, c'est de la divulgation douce, c'est une sorte de préparation pour les lightworkers, parce que pas tout le monde ne peut lire ça sereinement, sur Terre, c'est une sorte de préparation à voilà comment vivent les civilisations évoluées. Voilà comment un vaisseau a une conscience. Comment dans un vaisseau, il y a une partie matérielle, il y a une partie éthérique, mentale, causale. Waouh, c'est des êtres. Ces vaisseaux-là sont des êtres, comme une planète est un être. Donc voilà, ça ne le fait que l'événement puisse arriver seulement dans 10 ans, pour moi, ça n'enlève pas un seul millimètre de motivation à continuer d'œuvrer pour l'avancée des consciences.
Je voudrais rajouter quelque chose à propos de ce que tu dis. L'événement ne peut pas être pour maintenant. Je reçois beaucoup de personnes qui viennent pour une thérapie. Je propose, mais en ce moment, j'ai très souvent le nombre de personnes à qui je dis pardonnez. Mais pardonnez, vous m'expliquez des tas de choses, il faut pardonner. Et je répète ça à longueur de journée aux personnes qui viennent me voir, et je vois bien qu'elles ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il faut réexpliquer de quoi il s'agit dans le pardon. Et pour moi-même, je me rends compte que même si on pense qu'on pardonne, ce n'est pas évident du tout. Et ça, les choses reviennent parce que c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Et c'est très long et ça ne se fait pas comme ça. Quand c'est dans le mental, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire un pardon du cœur, au niveau du cœur. Et ce n'est pas si facile que ça. Et on a besoin d'y revenir énormément. C'est très souvent, c'est très fréquent. Et c'est pour ça, je trouve que les gens ne sont pas prêts. Y a beaucoup de moments où je me dis, mais je ne suis pas forcément prête. Parce que le pardon, il n'est pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément acquis. Voilà.
Je voulais juste rappeler que Cobra, il donnait quand même la date de 2025 comme échéance, pas seulement pour l'événement, 27. Mais pour. 27. Non, 2025. Hein. C'est bien 2025. Mais pas seulement pour l'événement, mais aussi pour tout ce qui vient après l'événement. C'est-à-dire. De transformer toutes les choses là, toute la société, que tout ça doit être bouclé pour 2025. Hein. Il l'a dit plusieurs fois. Hein. Alors une fois il avait été ambigu, je croyais que du coup il se contredisait, mais après la fois suivante il a redit la même chose, donc visiblement il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, c'est vraiment 2025. Enfin, d'après ce qu'il dit. Hein. Alors il y a un truc aussi qui était intéressant, c'est que dans un de ses derniers posts, il parlait à propos des reptiliens, il parlait des positifs et des moins positifs. Il faisait la distinction. Parce que ça, il y en a d'autres qui le font. Moi, depuis un moment, bon, je m'intéresse à l'œuvre d'un Français
qui s'appelle Anton Parks. Et il parle effectivement de il fait la distinction. Et au bout de Cobra, pour l'instant, il faisait pas la, enfin, il n'avait pas. Il n'avait pas parlé. Il n'avait pas dit que c'était impossible, mais il n'était pas entré. Il n'avait pas dit ça. Enfin, il n'avait pas. Pas spécifié. Enfin, bon. Et donc, ça, c'est nouveau. Bon, ça recoupe donc certaines choses. Alors, je sais qu'il y en a chez PFC qui ont aussi entendu parler aussi des portails organiques. Il y en a peut-être qui ont lu aussi sans des genelles, alors qui réutilisent la terminologie d'Anton Parks et qui parlent du service à soi et du service à autrui en faisant la distinction entre comme si et comme si carrément il y avait deux humanités qui sont à un stade différent. Et Anton Parks, il parle de ça aussi, parce qu'Anton Parks, il parle d'humains qui auraient des gènes qui auraient été mis par les Ginkgo pour qu'ils soient plus malléables par le côté obscur d'une certaine manière, enfin plus égoïste naturellement, enfin bon. Et bon, il y a plusieurs personnes visiblement qui disent qui parlent de ça. Enfin, moi je parle de ça parce que tu parlais tu séparais en trois types, mais c'est sur un autre plan en fait. C'est pas chercheur de lumière ou pas, c'est plutôt les gens en général. Il paraît qu'il y aurait au moins il y aurait tendance à y avoir deux familles en fait, et on voit pas, et ça se voit pas trop, enfin c'est pas très visible. Ça peut être dans la même famille les personnes qui sont, enfin bon, c'est une idée, hein, bon. Mais bon, si quelqu'un veut dire quelque chose, tu vois.
Oui, je suis un petit peu étonné quand tu disais Avi, que pour toi le niveau de conscience de l'humanité est plutôt bas quand même. Alors, comment dire ça? Pour moi, s'il y a un pays où le niveau de conscience est plutôt bas, c'est bien la France. Et pour moi, dans ma conception des choses, c'est un petit peu le curseur qui montrait, comment dire, que si en France, admettons, on est à 5%, ça veut dire que le monde est au-dessus. Voilà, en gros, c'est ça. C'était ça mon idée, en fait. C'est que, dans ce que j'ai lu, notamment chez comment s'appelle, Claude Trax, voilà, il y a une pression telle qui est mise sur les Français pour pas qu'ils se réveillent, que le jour où ils se réveillent, alors là, c'est fait de domino, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en dessous du niveau mondial. Mais je viens de dire que la France est en train de se réveiller, et pour moi, on a déjà passé 5% en France. Justement. Alors après, 5%, il y a effet de domino sur les autres. Mais c'est pour ça que je ne suis pas aussi convaincu que le niveau de conscience mondiale soit aussi bas. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, et juste une chose par rapport aux reptiliens. Alors, pour moi, d'après ce que j'ai lu, hein, il y a les reptiliens qui viennent de l'extérieur et ceux qui viennent de la Terre. Ce n'est pas les mêmes. Et il y a ceux qui sont rédemptés aussi. Voilà. C'est juste ça. Qui ont choisi de se transformer, quoi, de changer.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Si je peux dire quelque chose par rapport... alors là, excuse-moi, Avi, je vais te contredire, parce que la dernière fois, tu avais parlé de la voiture Tesla. Et j'ai l'impression que tu avais fait un peu une confusion, des raccourcis entre Tesla énergie libre et puis voiture avec qui utilise de l'eau, donc carburant eau, voiture à eau, énergie libre, enfin des raccourcis comme ça. Et alors qu'en fait, la voiture, ce qu'on appelle la voiture Tesla, elle est absolument pas... Tu as vu après, c'est ça? D'accord. Avi avait donc, c'était une coquille en fait, il n'avait pas vu. C'était en fait elle utilise de l'eau de mer comme un élément de fonctionnement, mais à la limite c'est pareil comme une voiture normale, elle utilise de l'eau pour son système de refroidissement. Mais pour le rechargement, de l'énergie, ça, elle utilise de l'énergie électrique qui doit être produite avant. Et en plus, c'est une voiture qui consomme beaucoup, donc elle n'est pas spécialement économique. De ce point de vue-là, voilà, bon, tu voulais dire.
Je fais une mise au point parce que je me suis documenté depuis. Il y a deux voitures différentes, une produite par Tesla qui a une autonomie vraiment très importante, du genre 500 ou 600 km, qui fonctionne avec des batteries, avec des recharges quand même très rapides, des superchargeurs disséminés en France un peu partout. Trois types de chargeurs. Alors celle-là, c'est une voiture Tesla. C'est pas du tout de l'énergie libre. C'est une voiture électrique. Et il y a une autre voiture qui n'est pas produite par Tesla. C'est là où j'ai fait une confusion. Enfin, je n'avais pas creusé le sujet. C'est fait par la société Qant, Q-U-A-N-T. Et c'est une voiture qui fonctionne à l'électrolyte. Et donc, on peut mettre de l'électrolyte dans les stations-service. Comme il y a maintenant du sans-plomb, du diesel, du machin, il y aurait une borne supplémentaire. C'est un liquide. Sur les publicités, on voit un tuyau rouge, un tuyau bleu, et puis ça remplit deux réservoirs d'électrolytes différents. Et c'est comme si c'était la voiture était une batterie et l'électrolyte était à l'extérieur. Et on amène les électrolytes en contact. C'est le contact entre les deux solutions d'électrolytes différentes qui produit le courant. Et c'est pas du tout Tesla hein, qui fait ça. Et c'est un prototype, c'est une voiture qui n'est pas encore vendue. Mais par contre, ça serait la différence avec l'électrique, c'est que ça serait du carburant. Et c'est pas inflammable, c'est pas dangereux. Ça, en cas d'accident, il y a pas, ça brûle pas. Et c'est des gros réservoirs du genre 200 ou 400 litres, mais on peut rouler 600 km et ça fonctionne à l'électricité, hein, sauf que on recharge en électrolyte et on fait le plein comme on fait le plein aujourd'hui d'essence, sauf que on fait le plein d'un moteur électrique. C'est un concept vraiment assez révolutionnaire. Il y a une des voitures, je crois que c'est celle de Tesla, qui a reçu un prix assez prestigieux de l'industrie automobile. Je crois que c'est celle de Tesla comme étant quelque chose d'un concept de très novateur et très abouti. Voilà la mise au point. Mais si vous avez l'occasion, regardez la limousine S.Kant, je sais pas. Je crois que j'ai donné ça dans le dernier bulletin PFC, la liste de diffusion PFC. Il y a cette vidéo, elle fait rêver. Ça parle de... Je ne sais pas pourquoi j'ai confondu avec Tesla, ou peut-être que ça s'est croisé sur YouTube. Sur YouTube, il y avait un lien connexe. Voilà. Tu veux terminer ?
Par rapport à ton information, c'est vrai que toi, c'était tout ce que tu disais, c'était de l'énergie finalement libre. Enfin, c'était un peu sous-entendu parce qu'on comprenait. Ouais, mais c'est ce qu'on comprenait dans ce que tu disais, parce que il y avait entre Tesla, fonctionne à l'eau de mer, à l'eau salée. Enfin bon, voilà. Mm-hmm. Donc l'important, c'est bien de rappeler que pour l'instant, que ces voitures-là, c'est pas de l'énergie libre. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça n'existera pas, mais voilà, ça reste un mystère assez épais, l'énergie libre. Sachant que c'est peut-être même le mystère le plus épais de tous, selon mon expérience.
Oui, je dois revenir sur les porteurs organiques. Parce que... Alors, j'ai d'abord entendu que il n'avait pas d'étincelle divine. Alors ça, c'est... Waouh. J'avoue que c'est une information qui m'a un peu secoué, vous voyez. Et puis une deuxième, où on nous dit que quand même, ils peuvent se... Voilà. Évoluer, mais alors, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, qu'à ça ne tienne... Notre position, en fait, Elle est simple, c'est comme... Bon, on va prendre un exemple extrême, c'est si on est en face d'un manipulateur qui serait PO ou pas PO, c'est vraiment un manipulateur de haut niveau, bon, bah, on passe son chemin, en fait, c'est ça, simplement. Donc, j'ai envie de dire que, étincelle divine ou pas, bon, j'ai envie de dire, le comportement reste le même. Et absolument aucun rapport par rapport au changement, plus personnel. Dans sa vidéo de cette semaine, Cédric Anicet parle de l'indépendance économique. Et à la fin de la vidéo, il lance un défi qui n'a aucun rapport avec l'argent, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce défi est le suivant, c'est dites tout de suite à une personne que vous l'aimez, mais sans attendre. Vous débrouillez un texte ou un mail, vous dites que vous l'aimez tout de suite. Alors, je l'ai fait. J'ai relevé le défi une fois, deux fois, trois fois. Le changement, c'est fort. Alors là, c'est radical. C'est un soulagement, mais alors, mon Dieu. Et aujourd'hui, j'ai déclaré ma flamme. Et ça faisait des mois et des mois que je traînais le boulet. Eh bien, c'est une sacrée journée aujourd'hui. C'est une légèreté. C'est comme si, en fait, plus rien ne pouvait être comme avant. C'est comme si plus rien pouvait me détruire ou je ne sais quoi. Ou, vous voyez, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, merci.
Moi, j'ai plein de choses à dire, mais vous pouvez m'interrompre. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur Arte. Je trouve qu'il y a une accélération des révélations sur Arte. Non seulement des révélations, mais des programmes qui vont à l'encontre des enjeux financiers de ce monde. Dernier en date, aujourd'hui, je n'ai pas encore tout vu. Mais il y a une émission qui parle du jeûne comme thérapie pour guérir, pour aller mieux, pour...
Il y a quelques années déjà.
Oui, mais c'est apparu aujourd'hui. Hein, voilà. Il y a, pour ceux qui sont là, il y a l'image. On voit une assiette avec dessus un verre d'eau. C'est ça ton repas quotidien. Et alors, pourquoi c'est révolutionnaire ? Parce que c'est une nouvelle thérapie dont les labos pharmaceutiques ne veulent pas. C'est une nouvelle thérapie en Occident, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle est expérimentée en Russie. Et qu'il y a eu des études médicales sérieuses, poussées, avec des conclusions, avec un fascicule qui rassemble toutes les conclusions, qui n'a jamais été traduit parce que les laboratoires n'y accordent aucun crédit. C'est le terme même du documentaire. On ne vend pas une seule pilule avec ce jeune-là. Et ils disent tout à fait, voici tous les cas que le jeune a réussi à améliorer ou à régler. Une liste de maladies impressionnante. Mais ils disent aussi, voici les maladies que le jeûne, pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué. Donc c'est pas du croyez-moi, ça règle tout. Et c'est un documentaire qui est apparu aujourd'hui, qu'on peut voir encore pendant 6 jours sur Arte plus 7. Le jeûne, une nouvelle thérapie. Hein. Donc, Arte prend les choses... de plus en plus à contre-courant, se situe comme un lanceur d'alerte. Enfin, moi, je vois que ce genre de documentaire qui va à l'encontre des lobbies financiers se multiplie. Hein, et je pourrais en citer d'autres.
Enfin, oui, enfin, tu utilises un exemple. Il se trouve que cet exemple-là, c'est pas exactement la même chose, mais il y a quelques années, même peut-être 5-6 ans, peut-être même plus, je ne sais plus, peut-être pas loin de 10 ans, Arte avait fait un documentaire sur ce sujet-là. Donc pour moi, enfin, Donc tu cites cet exemple, pour moi c'est pas nouveau. Par contre, de temps en temps je vais voir Arte et pour moi ça reste une chaîne kabbalistique. Mais bon. Voilà. Bon, c'est... Après je. C'est... Je sais pas, c'est ma perception. Hein.
Juste une parenthèse, le jeûne c'est bien, l'entrepranique c'est mieux. Et on sait que. Tant qu'à faire. Si on ne peut pas manger, autant manger de la lumière. Hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à Marjolaine, il y a 2 ans, j'ai entendu dire que. Une personne voulait ouvrir un stand pour parler de la nourriture pranique et ça n'a pas été accepté. Bah, attends le jour où peut-être Arte diffusera, à moins que ça ait déjà été fait, le film Lumière, qui parle de ça. Ou qui, voilà, enfin, ça me paraît intéressant.
C'est quoi un stand avec de la nourriture pranique?
Alors, la nourriture pranique, c'est la nourriture de lumière, c'est-à-dire c'est quand on s'alimente par l'énergie, directement, par le prana.
Tu vends des bougies, c'est ça?
Non, non, c'est pas des bougies. Je vois rien du tout pour l'instant, mais ça va venir. Non, simplement par rapport au. Alors, oui, juste pour revenir aux jeunes aussi. Mon cousin, lui, qui n'est pas du tout dans toutes ces choses-là, j'ai parlé avec lui longuement la semaine dernière, et il a. Bon, il est chef d'entreprise, il travaille tout le temps, il mange n'importe quoi, bon, bref, il est à fond dans le capitalisme. En 2015, ça existe encore. Bon. Et alors, il m'a dit, devine ce que j'ai eu à l'hôpital comme médicament, enfin comme voilà pour me soigner. Alors je dis ben non, je sais pas. Il me dit rien. J'ai rien mangé pendant 3 jours. C'est ça qu'ils m'ont donné à l'hôpital. Alors c'est l'hôpital, je crois, de c'est en Maine-et-Loire, il me semble. Ça doit être Angers ou bon. Alors peut-être que là c'est une... peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, ça contredit un petit peu. Peut-être que là effectivement ils ont bah, juste rien donné. Simplement ils l'ont arrêté de l'alimenter quoi. C'est tout. Et le concernant, c'est vrai que ça, voilà, c'est pas trop dans son fonctionnement, mais ça lui a pas du tout posé de problème. Donc pour une personne qui, au sujet de laquelle on aurait pu croire qu'elle aurait résisté, qu'elle aurait fait, eh ben pas du tout. Et elle s'est guérie très vite.
Voilà, je crois que Arte a toujours été un peu rebelle, enfin, a toujours été un peu agitateur, mais j'ai l'impression que ça s'accélère malgré tout, parce que là, il parle, le jeune, une alternative au tout médicament. Hein, donc ça commence à s'opposer au système établi. Donc même s'il le faisait dans le passé, c'est OK, j'ai l'impression qu'il l'amplifie aujourd'hui. Hein, ils en parlent avec... bon... Peut-être que mon niveau de conscience aussi augmente et fait que moi, je le remarque aujourd'hui davantage que je le remarquais il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je ne regardais pas Arte comme je le regarde maintenant. Et puis, je n'avais pas une tablette comme ça au petit déjeuner devant mon miam aux fruits qui pouvait... c'était moins encombrant qu'une télé. Hein. Donc, J'ai vu ça, le jeûne, et puis ça m'a touché parce que ça pourrait être un tel documentaire, le fait même qu'il soit programmé, pourrait être combattu par les industries qui vendent des pilules, puisque ça ne fait pas gagner d'argent. Voilà. Et j'ai l'impression que... on voit pas ça sur TF1, bien sûr, entre guillemets. On voit pas ça sur Antenne 2, on voit pas ça sur FR3. Il y a des petites percées, de temps en temps, audacieuses. Mais Arte tient pour moi le haut du pavé. Après, pour continuer, pour parler de l'accélération d'Arte, ils ont fait une émission sur les révolutions dans le monde. Ils ont fait une sorte de récapitulation de toutes les révolutions récentes pour parler de leur organisation, mais aussi du mouvement de conscience qui est derrière ces révolutions. Et c'est la première fois que je vois un documentaire comme ça qui prend l'ensemble des révolutions et qui analyse... Ça parle bien d'un tournant dans les mentalités, d'un tournant dans les sociétés, d'un changement de conception. Bon, c'est encore une petite brique à l'édifice des le monde change. Hein. Pour moi, il se focalise sur ce que font les nouvelles générations, ce que bon, peu importe que ces révolutions, elles aient été dévoyées, elles aient été ensuite manipulées, détournées, confisquées. Le mouvement de conscience à l'étincelle du début, elle était authentique pour moi. Hein. Et après, bon, on fait ce qu'on peut, hein, comme on dit. Après, il y a l'émission future que je suis avec assiduité. J'ai vu ce matin, puisque c'est tous les samedis que ça s'est diffusé. Il y a deux voitures volantes qui sont homologuées pour rouler sur la route et dans les airs. Aujourd'hui, on peut acheter une voiture volante. Ouais. Une qui est une sorte de d'avion avec les ailes qui se replient. Il faut quand même une piste d'aéroport pour décoller et atterrir, mais on peut atterrir à l'aéroport et ensuite prendre la route avec l'avion qui replie ses ailes et qui, bon, ça coûte super cher, mais ça existe. Hein, les voitures volantes, on ne peut plus dire que c'est de la science-fiction, il y en a deux et il y en a encore 5 ou 6 qui sont en attente d'homologation, dont des voitures volantes françaises. Ça roule à l'essence, hein, ça roule... Ça ne roule pas à l'antigravité, pas encore. Il y en a une autre qui est, je crois, français. C'est un gyrocoptère. Donc, il a une hélice derrière et puis une grande hélice au-dessus qui n'est pas motorisée, mais qui se met à tourner avec l'effet du vent, au fur et à mesure que ça. L'avantage du gyrocoptère, c'est qu'il décolle beaucoup plus vite et il atterrit. Il a besoin de moins de pistes d'atterrissage. On peut atterrir sur un champ. Donc, dans les situations d'urgence, c'est encore anecdotique, mais ça existe. Hein. Alors, j'ai vu une vidéo de Kesh, l'Iranien là, qui prétend avoir trouvé l'antigravité. Et il y a une vidéo qui montre en une minute une voiture à antigravité qui est dans les airs, qui tangue comme ça. Bon, on peut rajouter ça. Ça reste à vérifier, bien sûr. Attention, ça réagit drôlement, là.
Je vais en rajouter plein. Depuis octobre, il y a eu une cinquantaine de détections de drones. En France, au-dessus des sites nucléaires, en France et dans d'autres pays européens, et aussi dans Paris. Donc, plus d'une cinquantaine de détections. Il y a eu beaucoup de... Enfin, ils ont porté plainte. Et en fait, il n'y a aucune enquête qui aboutit. On ne trouve aucune photo, aucune vidéo. Alors, c'est détecté, mais il n'y a pas les vidéos, il n'y a pas les photos. Ou alors, on ne veut pas nous les donner. Et c'est très, très étonnant, ça, quand même. Hein. 50, hein, même plus, même maintenant. Hein. Au-dessus de Paris, sur les sites nucléaires. Alors, en fait, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'ufologie, c'est rien de nouveau. Hein, c'est depuis les années 50, hein, les sites nucléaires sont régulièrement survolés par des ovnis. Et moi, je pense personnellement que c'est ça. Parce que c'est quand même étonnant. Je pense que ce qu'ils appellent drone, en fait, c'est tout simplement en quelque sorte des soucoupes volantes. Enfin, des trucs qui sont pas ou alors je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit des ce qu'on est censé appeler drone, en tout cas ce qu'ils appellent drone. Donc je parle de ça parce que ça c'est du lourd, voilà, ça se passe au-dessus de nos têtes ici et maintenant.
Alors, j'ai retrouvé le titre du documentaire sur les révolutions. C'est celui-là qui est vraiment percutant. Il s'appelle « La révolution, c'est maintenant ». Waouh ! C'est comme un signal, ça. Hein ? C'est comme un signal donné. Ils auraient pu appeler leur documentaire n'importe comment d'autre, mais « La révolution, c'est maintenant », c'est une sorte d'encouragement à changer les choses, hein, à le faire maintenant. C'est pas rien, hein, comme titre. Alors après, il y a une innovation dans le futur super intéressante. Alors là, ils ont trouvé un moyen de cultiver pratiquement sans eau et avoir des rendements super efficaces avec un produit issu du pétrole, mais qui n'est pas du tout polluant, à base de potassium. Ils ont changé un truc qui était à base de sodium, qui n'était pas bon pour les plantes. Ils ont mis du potassium qui, là, peut être absorbé par les plantes sans aucun problème et quantité. Ça fait une sorte d'eau en gel. Ça retient l'eau. Et en fait, on met une cuillère à soupe de poudre au pied de la plante, dans la terre, et l'eau, au lieu que 90%, ce qui est la normale, s'écoule et soit perdue dans le sous-sol, est entièrement retenue par cette poudre, et les racines vont se développer autour des endroits où il y a ce gel qui se crée. Donc ils ont fait des expériences, le rendement est multiplié par deux, il n'y a pratiquement pas besoin, aucune eau n'est perdue, donc on arrose beaucoup moins, les citronniers commencent à donner au bout de 2 ans au lieu de donner au bout de 4 ans, voilà, donc c'est assez révolutionnaire. Et puis je crois qu'il y a un Français qui a fait encore mieux avec de la cellulose. Il a réduit le pourcentage de cette poudre à 5% et puis en mettant de la cellulose. Ce qui fait qu'on ne gaspille plus l'eau. Et c'est une excellente nouvelle parce que l'eau va devenir une denrée très chère dans les années à venir. L'eau potable se raréfie à grande vitesse au fur et à mesure que l'humanité augmente. Et donc ça sera très peu cher et c'est applicable. On peut reverdir le désert pratiquement. Et dans les anciennes mines où il y avait des trucs comme du nickel où aucune végétation ne pouvait repousser, ils sont arrivés à replanter des arbustes et à refaire reverdir des sites contaminés. Donc il y a quand même... fallait y penser, hein, faire un gel avec de l'eau, hein, qui reste dans la terre au lieu de s'écouler. Donc il y a des chercheurs qui sont inspirés aujourd'hui, ou alors on s'en rend compte seulement aujourd'hui, mais c'est diffusé. Voilà, et puis, bon, dans le monde change, c'est à peu près tout. Le gros pavé pour moi, c'est ces deux vidéos... qui ont été diffusés par une école de yoga roumaine. Alors, je n'ai pas vraiment approfondi sur comment ils ont les informations, mais a priori, c'est du psychique. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Il faudrait peut-être l'approfondir. Mais y a deux vidéos... La première, j'ai été bluffé et on m'a dit qu'elle datait d'il y a un an. Et déjà, il y a un an, ce qui était diffusé était carrément... on parlait de la guerre entre les Syriens et les reptiliens, justement. Sachant que les reptiliens ont des vaisseaux qui sont à peine visibles parce qu'ils sont tout noirs, ils sont entièrement sombres, ils émanent aucune lumière. Et les Syriens, ben, c'est des vaisseaux beaucoup plus organisés en forme de sphère... voilà, des vaisseaux avec des capacités très très importantes. Dans ce premier reportage, les images sont extraordinaires. C'est des images un petit peu de réalité virtuelle, hein. C'est pas des images filmées, mais même ces images-là, les concevoir, pour moi, c'est assez bluffant, parce que c'est comme bon, je disais tout à l'heure, une divulgation, c'est-à-dire c'est extrêmement parlant, ça résonne en moi, mais à un niveau je ne sais pas, comme si je me rappelais de ces choses-là, parce que c'est étrange comme ça résonne. Alors de la première vidéo, celle qui date de août 2014, quelque chose comme ça, Je retiens, il y a eu une immense bataille dans le cosmos, pas loin de la Terre. Il y a eu un immense vaisseau qui fait la moitié du diamètre de la Terre, qui est dans l'éthérique, donc complètement invisible pour nous, qui a été attaqué par des reptiliens. Il y a une chose très intéressante qui a été dite, c'est que les Syriens, donc ça s'écrit avec un I, hein, ça veut dire origine de Sirius, aucun rapport avec la Syrie du Moyen-Orient. Les Syriens ont fait face à une attaque de plusieurs millions, à peu près 50 millions de vaisseaux reptiliens. Donc ils arrivent à aller, certains vaisseaux sont des automates et d'autres sont réellement habités par un pilote reptilien. Ils ont réussi, ils avaient la technologie pour annihiler d'un seul coup les 50 millions de vaisseaux. Les Syriens l'avaient, mais ils ont laissé les reptiliens détruire une partie du vaisseau syrien, endommager une poche d'environ quelque chose comme 500 kilomètres de grandeur. Ils ont laissé détruire à dessein, parce qu'ils ont examiné les lignes temporelles des différentes possibilités dans le futur. Ils ont vu qu'en laissant détruire, dans les lignes temporelles, il allait se produire une fabuleuse coopération entre des civilisations galactiques pour reconstruire, et que cette coopération allait aboutir à un résultat extrêmement positif. Et donc, sciemment, ils ont laissé détruire leur vaisseau, en partie, et après, ils ont appelé un genre de SOS à toutes les civilisations galactiques pour dire, venez nous défendre le vaisseau, venez vous mettre en bouclier de protection pour que ça ne soit pas plus attaqué. Et parce que la situation a été urgente, il y a eu 72 civilisations galactiques qui ont répondu présent parce qu'il y avait une grande urgence. S'il n'y avait pas eu cette urgence, ils n'auraient peut-être pas répondu présent. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à reconstruire ce vaisseau. Et la suite, c'est que, voyant la mobilisation de 72 civilisations, les Syriens ont émis l'idée, avant même que la reconstruction soit terminée, et si on construisait un vaisseau, si on coopérait tous ensemble maintenant pour construire un nouveau vaisseau au sein même de ce grand vaisseau, et ce vaisseau aurait une tâche importante pour libérer la Terre, pour communiquer avec les Terriens, il aurait des capacités que même le vaisseau mère énorme de 3000 km de diamètre n'a pas. Il aurait la capacité de communiquer psychiquement par les émotions avec les humains. Et donc, il pourrait gérer un flux de communication de 10 millions de communications émotionnelles en même temps. Et donc, il pourrait envoyer des hologrammes, il pourrait envoyer des émotions. Waouh, déjà, ça a l'air de science-fiction. Essaye de raconter ça à ton voisin de palier, pour voir. C'était le point de base, pourquoi ils ont laissé détruire leur vaisseau.
Oui, ça me rappelle une anecdote. Cet été, il y a un moment donné où le conflit israélo-palestinien m'a particulièrement, investi. Enfin, je trouvais ça tellement insupportable. Et je me suis dit, mais ne serait-ce que par rapport aux enfants, c'est inadmissible, quoi. Et là, je vais sur Internet, et là, qu'est-ce que je vois? J'avais reçu un message sur ma boîte de, je ne sais pas si c'est Avaz ou c'est, bon, en tout cas, une information qui parlait surtout des civils et des enfants. Et je me suis demandé si c'était pas, alors sur d'autres plans, évidemment, hein, parce que là, on parle de tous les plans, justement, que je n'ai pas reçu un message des enfants sur d'autres plans et qui se manifestait aussi par le mail, mais que j'ai eu après, donc c'était pas une influence du mail, bien sûr. C'est ça que ça m'évoque ton histoire de comment fédérer à partir d'une chose négative, etc. C'est ça que ça m'évoque. Et par rapport à la notion de fédération, justement, en lien avec la notion d'éveil de la Terre, puisque je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, il y a quand même des événements récents qui ont montré que les êtres humains, ils étaient mûrs quand même pour des changements. Après quel degré, ça reste à déterminer. Il y a quand même la mort de Lady Di, qui a été un moment très important, je crois, au niveau, je pense sur d'autres plans, au niveau du féminin sacré, qui a rassemblé des gens de tous les pays. Ce qui n'a pas dû te plaire du tout, je pense, à l'époque, à la reine et toute sa clique, hein, toute sa grande famille. Et aussi, je me souviens de la guerre en Irak, quand la guerre en Irak a été déclarée, il y a eu des manifestations dans le monde entier. Et je me suis dit à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations dans le monde entier contre quelque chose? Je me suis posé la question. Alors, peut-être que ça a déjà existé, hein, mais je ne suis pas sûr que ça existait à ce niveau-là, en fait. Donc pour moi, ce sont des événements mondiaux d'envergure où les êtres humains se sont quand même mobilisés autour de la même chose. Et donc, c'est ce qui me fait dire que l'humanité n'est pas si endormie que ça. Et ça, c'était l'Irak. Et ne parlons pas du 11 septembre. Parce qu'alors là, déjà que l'éducation nationale nous dit qu'un élève sur cinq ne croit pas à la théorie officielle et pense que derrière, il y a une stratégie de manipulation. Un élève sur cinq, si l'éducation nationale dit que c'est un élève sur cinq, qu'est-ce que la réalité? Parce que moi, dans mes cours, déjà, j'ai bien du mal à gérer entre ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce que les élèves pensent, ce qu'il faut... Je suis Charlie, je suis pas Charlie. Il faut vraiment avoir une dextérité. On marche sur des œufs. C'est... Bon, il y aura moi avec ma conscience, vous imaginez. Donc j'arrive quand même à m'en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est... Encore une fois, je ne suis pas sûr que l'humanité est si endormie que ça. Et pour terminer, signe de l'éveil. Moi, j'aime beaucoup regarder en ce moment une télé sur Internet qui s'appelle Meta TV, qui est présentée par un rappeur français qui s'appelle Tepa, que j'adore. Voilà. Et autre chose, Tepa, Meta TV et... Ah, j'ai oublié. Bon, ça reviendra sûrement. Meta TV, ça s'appelle. Meta TV.
Oui, j'ai entendu souvent ce nom. Je sais plus que. Ouais, je sais même plus si j'ai écouté ou pas, mais c'est un nom que j'ai entendu très souvent, ouais, que j'ai lu très souvent. Moi, je suis plutôt un. Je suis tout le temps sur ici maintenant, en fait.
Oui.
C'est bon.
Oui, merci.
Donc, je parlais de quoi juste avant. On va finir dans un petit quart d'heure, hein, maximum. Si jamais vous avez besoin de partir, c'est OK de partir. Voilà, un point important, c'est que dans ces vidéos, dans la deuxième vidéo, les Syriens, enfin nos interlocuteurs, je ne sais pas si c'est les Syriens ou ceux qui ont vu le futur, ont prévisualisé que dans le futur, les téléviseurs et la technologie, même la musique, seraient accompagnés de diffuseurs d'émotions. On va pouvoir maîtriser, grâce à des ondes de très haute fréquence et des ondes de basse fréquence, on va pouvoir stimuler certains neurones, les synapses, et on va pouvoir, en même temps qu'on voit une série dans laquelle le jeune homme est fou amoureux de sa compagne, on va ressentir cet amour en même temps que lui. Ça va être des choses assez fortes parce que on va être vraiment immergé émotionnellement beaucoup plus que maintenant. On sera plus spectateur passif, mais on sera émotionnellement impliqué. Mais s'il y a de la peur, on va aussi ressentir la peur. Hein. Alors ils disent qu'il y aura deux catégories d'humains. Il y aura ceux qui vont privilégier les émotions négatives et qui vont se complaire dedans. Un petit peu comme les reptiliens se nourrissent de la peur, et ceux qui vont privilégier les émotions positives et vont élever leur niveau de conscience avec ça. Alors, tout de suite, j'ai pensé, voilà un instrument de contrôle qui va être récupéré par la cabale à toute vitesse pour contrôler les gens en mettant les émotions qu'il faut, dans les programmes qu'il faut. Le temps de cerveau disponible, hein, mais émotionnellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils annoncent là-dedans que l'Alliance galactique va utiliser ça pour entrer en contact avec les humains, va utiliser cette technologie d'émotion pour faire passer des messages émotionnels, parce que ça sera simple. Mais, et donc le nouveau vaisseau qui est en train d'être construit, qui va être placé entre la Terre et la Lune au niveau éthérique, donc ne sera pas visible, aura pour tâche de communiquer par hologramme et aussi par un flux émotionnel.
Ouais, alors j'invite toujours tout le monde évidemment à prendre tout avec du recul et par exemple aussi à tenir compte de se renseigner sur Bluebeam et parce qu'il faut, on sait jamais, hein, on peut très bien imaginer que Bluebeam il voudrait par exemple pour manipuler les gens d'envoyer des émotions, il paraît que c'est un peu envoyer des sons, des images et puis pourquoi pas des émotions. Donc on pourrait imaginer par exemple que on pourrait manipuler des groupes qui devraient diffuser des informations qui viennent en fait de Bluebeam, qui prépareraient les gens à l'idée de recevoir des émotions pour qu'ils ne se doutent pas en fait en fait derrière c'est truqué. Alors je suis pas du tout en train de contredire avis, je suis juste en train de dire qu'il faut tenir compte, voilà, toujours garder du recul sur tout ça. Parce que pour moi, je fais immédiatement le rapprochement.
Merci. Oui, toujours discernement. Bon, Bluebeam, Cobra s'était positionné quand même clairement sur le fait qu'il n'aurait pas lieu. Hein, ça, c'est terminé. Alors, l'information que moi je retiens la plus importante, c'est que ce vaisseau qui sera vu du haut complètement circulaire et vu de côté elliptique comme une lentille de contact. Hein, on l'appelle un vaisseau lenticulaire. La taille est estimée aux 2/3 de celle de l'Europe, donc 3800 km de long et 1800 km de haut. Alors, ça, c'est un vaisseau, c'est mieux qu'un transatlantique, hein, c'est un transgalactique. C'est un paquebot transgalactique. Ils décrivent la construction de ce vaisseau à l'intérieur de l'autre vaisseau comme un fœtus dans le corps d'une mère. Et comme il y a des tas d'éléments psychiques, éthériques, mentaux, causaux, on peut vraiment parler d'un enfantement et que le vaisseau mère, qui s'appelle Anaïs, serait un utérus. C'est assez fabuleux parce que c'est pas un roman, hein, c'est vraiment les termes qui sont utilisés. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette construction sera terminée, parce qu'ils ont commencé à construire avant même de finir de réparer les dommages que le vaisseau mère a reçus. Mais dans la traduction française que j'ai publiée, dont j'ai publié le lien sur la dernière communication de PFC, j'ai retenu vraiment une chose super importante, c'est que toutes les 72 civilisations galactiques qui participent à la construction pourront individuellement demander d'entrer en contact avec les terriens. Et comment ça va se passer ? Depuis leur vaisseau qui est situé à distance du vaisseau mère, du vaisseau lenticulaire, ils vont demander une connexion au vaisseau lenticulaire et ce vaisseau lenticulaire va se charger de répercuter la connexion soit par des hologrammes, soit par des émotions, soit par une combinaison des deux. Donc on pourra voir un extraterrestre en face de nous sous forme d'hologramme et ressentir l'émotion que cet extraterrestre est en train de nous communiquer. Mais ça restera une image, hein, ça, c'est une projection. La chose la plus enthousiasmante pour moi, c'est que ils ont dit que chaque, et là je cite le texte, hein, je lis le texte, chaque civilisation de l'Alliance qui prend part au projet va désigner certains êtres volontaires pour rencontrer et parler avec les êtres humains en personne. Cela signifie que pour chaque être humain sur Terre qui a un niveau vibratoire de conscience adéquat et qui en manifeste le désir, non par simple curiosité, mais par un désir authentique de l'âme, sera capable d'avoir un contact direct avec un être extraterrestre de la grande alliance bienveillante à laquelle appartiennent les Syriens. Et donc, ça veut dire, commençons à demander, parce qu'ils ne répondent qu'à la demande. Hein. J'en manifeste le désir, et je le fais pour évoluer en conscience, et non pas pour me dire, « Ah, je voudrais bien voir leur technologie, je suis curieux. » Ça, c'est niette. Hein. Ils ne répondent pas à ça.
Alors, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire, Avi, parce que justement, j'ai envie de dire, commençons par les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit que j'avais déclaré ma flamme, eh bien, en fait, ce que je désirais au fond de moi, c'était vraiment une communication d'âme à âme avec cette personne, et c'est exactement ce qui s'est produit. Et c'est là où... comment dire ? C'est vrai que c'est important cette distinction, curiosité et désir d'âme, parce que la personne à qui j'ai parlé, elle a évoqué ces mots-là. Pourtant, ce ne sont pas des mots qu'elle emploie tous les jours. C'est pour ça que je disais, pour passer, on est ainsi à prepare for change, c'est ça, prepare, bon, alors, pour se préparer à une communication avec nos amis galactiques, déjà, faisons-le avec nos amis terriens. C'est une préparation. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont aidé cet après-midi, c'était merveilleux.
Et voilà, et puis il déclare que dans la première phase, il y a près de 100 millions d'êtres extraterrestres appartenant à des civilisations de l'Alliance qui ont répondu qu'ils étaient volontaires pour établir un tel contact avec des êtres humains sur Terre. Alors, ça pourrait être une pré-divulgation, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître à ceux qui sont assez en conscience. En mon fort intérieur, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Ça veut dire... pourquoi attendre que 95% de l'humanité change alors qu'il y en a 5% qui peuvent déjà agir, qui peuvent déjà communiquer et puis ensuite faire leur travail de répercussion à leur niveau. Pour cela, il faut qu'il y ait un mental émotionnellement stable hein, pour ne pas dire « Hey, t'as vu, tu sais à qui j'ai parlé hier ? J'ai parlé à un extraterrestre, il va se passer ça. » Ça, c'est... Ça, c'est la pire des réactions émotionnelles, et puis c'est contre-productif pour l'évolution de l'humanité. Mais voilà, donc dès hier, j'ai commencé à demander avec ma conscience, dans une petite méditation, j'ai commencé à demander un contact. Je ne sais pas si c'est déjà opérationnel ou pas, mais en tout cas, je sais que je peux le faire régulièrement, tous les jours. Je sais que je peux installer ça en moi, j'appartiens aussi à une famille galactique. Alors pour ceux qui ont lu « Les messagers de l'aube » qui a été écrit par Barbara Marcignac, elle parle d'une frange de l'humanité en s'adressant à eux, elle dit « les humains ». Au revoir Ludmilla. Elle dit à cette frange de l'humanité, les humains, comme si c'était nous et les humains, hein, comme s'il y avait une couche d'humains qui était parachutée sur Terre pour servir de noyau déclencheur au reste. Et moi, je sens bien que c'est juste. Je sens bien que ceux qui sont au travers de lumière se sentent profondément impliqués, sont profondément réactifs, positivement réactifs à toutes les nouvelles de conscience et voient le contraste avec ceux qui résistent énormément à tout le changement et ceux qui plongent dans les addictions à la télé, tabac, alcool, drogue, etc., sexe, pouvoir, j'en passe. Mais c'est comme s'il y avait sur Terre deux races d'humains, mais je dis ça... Sans ségrégation, hein, aucune. Juste au niveau de conscience, il y a comme, même si ça se planifie, ça s'aplanit un petit peu, mais il y a comme un fossé important entre travers lumière et puis masse de l'humanité qui suit le mouvement, mais le mouvement de manipulation, par contre. Pas le mouvement de PFC pour le changement. Mais c'est vrai que les mouvements comme Je suis Charlie, les mouvements qui ont bouleversé Lady Di, etc., qui ont bouleversé l'humanité, sont des mouvements qui, d'une certaine manière, ont fédéré les consciences. Hein, et les mouvements comme les indignés, les mouvements comme Démocratie maintenant en Espagne, même la Grèce... voilà, c'est des petites étincelles qui sont destinées à allumer des grands feux. Hein. Et en vérité, même si on est 5%, et je dirais même si on est 1%, certains prétendent qu'il faut un 0,5% pour réveiller l'humanité entière. Donc il y a une masse critique qui n'est certainement pas 1 pour 1. Hein. Il y a une masse critique à partir de laquelle le basculement se fait d'une manière générale parce qu'on influe tout autour de nous.
Oui, j'ai une petite théorie là sur la notion de masse critique. En fait, je la pense pas forcément en termes de personnes, mais en termes de degré d'éveil pour chaque personne. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis éveillé à 45%. Une autre personne, elle est éveillée à 5%. Je peux très bien être travailleur de lumière et être éveillé à 65%, par exemple. Bon, et une autre ne l'est pas, elle est éveillée à 55%. J'arrive pas à faire cette distinction comme Laura Marie le fait récemment. Il y a vraiment deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui ont conscience qu'ils sont autre chose que leur corps physique et les autres. Peut-être qu'elle a voulu simplifier, hein. Mais je me dis que peut-être le pourcentage, il est aussi, même si quelqu'un qui n'est pas très éveillé, il est un tout petit peu éveillé, il participe au basculement. Voilà, dans ce sens-là, je voulais le dire. Là, j'ai été clair, je pense.
Oui, c'est moi non plus, je ne ressens pas que c'est tranché, que c'est 0 ou 100. Je sais qu'il y a des ouvertures qui se créent, même chez des gens qui auparavant étaient hermétiques à certains sujets, des gens qui ne parlaient que de science et qui maintenant se disent « Ah, la synchronicité, oui, la synchronicité, la science ne l'explique pas ». Et pourtant, la probabilité est carrément impossible pour que je pense à une personne et elle m'appelle dans les secondes qui viennent, que je rencontre une personne, que je vois 14-14 sur l'écran ou 15-15, etc. J'explique pas et pourtant, je constate et donc il doit y avoir autre chose. Et ça, c'est une ouverture qui... se fait même chez des personnes qui étaient auparavant hermétiques à la spiritualité ou même à une ouverture de conscience. Hein. Pour eux, même le mot conscience ne voulait rien dire. Hein. N'avait pas de... pour certains, la conscience se loge dans le cerveau. D'ailleurs, même la science ne peut pas définir aujourd'hui ce que c'est que la conscience. On emploie un mot...
C'est le mystère de la chambre chinoise.
Voilà, c'était une irruption sauvage de Nicolas. Bon, c'est difficile de définir conscience. Hein. On en parle sans arrêt, mais où se trouve-t-elle? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai conscience de, je suis conscient, inconscient. Est-ce que la conscience, c'est avoir une antenne sur quelque chose d'énorme qui n'est pas dans le corps. Mais même quand j'ai dit ça, je n'ai pas défini.
À propos de conscience, je repense à la finesse dans la vidéo qui parle de la collaboration des 72 civilisations à la réparation du vaisseau mère, à la finesse de la coordination, la précision qui est expliquée. C'est quelque chose de... Là, je me dis, la conscience était à plein en fonctionnement au niveau individuel, donc à chacun des millions de personnes qui en sont intervenues. La façon dont ils décrivent ça est assez extraordinaire.
Ouais. C'est d'une beauté, ils comparent ça à une ruche, parce qu'à une ruche, chacun sait exactement ce qu'il doit faire, et ils entrent pas, les abeilles n'entrent pas en conflit. Quant à qui fait quoi. Et pourtant, il n'y a pas d'ordre donné, c'est harmonieux. Voilà, donc, Voilà, il y a des mouvements, même maintenant, qui s'appellent la ruche qui dit oui, hein, pour distribuer des légumes sous une forme plus horizontale, même si ce n'est pas complètement horizontal, c'est un peu plus horizontal. Donc oui, à 100%, hein, le monde n'est pas en strate très tranchée, mais même dans la population hermétique, il y a une évolution. Et on dit que les vibrations que la Terre reçoit sont bien plus hautes que maintenant, que ce qui se passait il y a quelques années. Même la Terre vibre plus fort, plus vite. Voilà, il faut terminer les bonnes choses, hein, parce que c'est liquide. Tout doit partir, tout doit disparaître. Donc je vous encourage à regarder la deuxième vidéo, mais comme les sous-titres sont une traduction de l'anglais, c'est assez difficile de suivre les phrases. Donc voir les images qui sont magnifiques, et ensuite lire le texte traduit sur le site, parce que ça a été traduit par un humain, et c'est vraiment très bien traduit. C'est une manière d'élever la conscience assez extraordinaire, parce que je sens que à la fois les images et à la fois le texte contribuent à l'élévation de conscience, même si on parle de sujets dont ce ne sont pas des témoins directs. Hein. Tout est dans le psychique, à mon avis, puisque c'est une école de yoga. Et c'est traduit en... Le premier a été traduit en beaucoup de langues différentes. Je pense que le second va sûrement aussi l'être. Bon, je vois qu'il y a une dissolution de la ruche imminente qui se passe déjà. Donc, on va arrêter la réunion. Chers amis de PSC, je me réjouis d'avoir partagé tout ça et d'avoir entendu toutes ces belles participations. Alors, on est le 8. La semaine prochaine, c'est le dimanche 15. Il y aura réunion ici, à Romainville. Et nous ferons le point sur le 17, hein, qui a envie de venir mettre sa lumière en commun avec la nôtre, avec le groupe. À très bientôt.
Merci.
Merci.